Bonjour à tous et bienvenue, c'est la Belle et le Gamer, c'est l'épisode numéro 321. Bon lundi à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes le lundi 22 avril 2024. Merci de tout cœur de nous retrouver, de me retrouver, puisque cette semaine, Asa est de repos, je serai tout seul pour cet épisode. Mais bon, on fait quand même un petit épisode parce qu'il s'est passé 2-3 trucs dans l'univers du jeu vidéo, il y a un petit peu d'actu, on a joué à plein de jeux, j'ai envie de vous raconter tout ça. Donc nous y voilà, mais avant de commencer, qu'est-ce qui se passe ici? Ma chère Asa et moi-même Ben, et parfois Ben tout seul, on est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est disponible partout où on peut trouver des podcasts. On stream également de temps en temps sur Twitch et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux et tout le reste de la communauté du podcast sur Discord. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et vous pouvez même nous soutenir sur patreon.com/labelleetlegamer. Rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles. Voilà. Pour cette petite intro, j'espère que vous êtes prêts. On va. Alors, Asa n'est pas là, mais c'est pas grave. On va faire comme d'habitude. On va faire le même modèle qu'habituellement. Les jeux auxquels on a joué cette semaine, avec un petit peu de nouveauté. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti des nouveaux jeux. Hein. On s'était un petit peu reposé sur les gros morceaux qu'on avait en cours. Gros morceaux qui sont terminés. Final Fantasy VII Rebirth, ça y est, on le range. C'est terminé. Crédit de fin sur Rebirth après 91 heures au chrono, c'était pas un petit jeu, mais ça y est, c'est terminé. Alors le petit mot de la fin sur Final Fantasy VII Rebirth, hein, l'avis final. On va pas spoiler le scénario évidemment, mais voilà, les changements sont finalement, par rapport à l'original, les changements sont finalement mineurs, hein, même s'ils rajoutent donc une couche d'intrigue qu'ils avaient déjà commencé avec Remake. C'est une couche en plus par-dessus l'histoire qui existait déjà. Et je suis pas encore 100% convaincu de cette nouvelle narration. On va voir où ça va. Hein. Maintenant, j'ai envie de voir la fin, le troisième épisode. Comment est-ce qu'ils vont réussir à retomber sur leurs pieds avec cette histoire un petit peu tarabiscotée. Hein. Merci, monsieur Nomura. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Le jeu en lui-même, il était très long. Hein. Final Fantasy VII Rebirth, il y avait beaucoup de contenu annexe, beaucoup de mini-jeux. C'est marrant d'avoir fait plein de mini-jeux. Hein, et Final Fantasy VII, l'original, est connu pour ses mini-jeux, ses petites activités à gauche, à droite. Donc c'est bien, c'est respecter vraiment un héritage de continuer sur cette lancée, de faire plein de mini-jeux. Maintenant, là, bon, au bout d'un moment, il y en avait trop. Alors, la plupart sont optionnels, évidemment, mais bon, quand on aime bien avoir, cocher toutes les cases des checklists, des trucs comme ça, avoir envie de tout faire, toutes les quêtes annexes. Et c'est ce qu'on a fait, hein, avec Asa. On a terminé toutes les quêtes secondaires, toutes les explorations, toutes les histoires de proto-reliques. Tout a été fait. C'est pour ça qu'on est à 91 heures au chrono. Hein, ça prend du temps de tout faire. Alors le jeu n'est pas fini à 100%, on n'a pas tous les trophées, hein, je pense que ça c'est encore un autre morceau et je pense pas qu'on s'y attaque, mais en tout cas on a tout fait et un petit peu indigeste sur la fin parce que comme dit il y a un petit peu trop, et même sur l'histoire principale, même sur l'axe principal, il y a certains chapitres qui sont laborieux. Il y a certains chapitres où ils te forcent à jouer l'un ou l'autre personnage en particulier en solo. C'est pas toujours super fun. Sur la dernière ligne droite du scénario, on va dire les deux derniers chapitres, c'est long, c'est très très long. On sait où on va, mais c'est voilà. C'est de l'exploration de donjons assez linéaire, pas forcément intéressant, à rallonge, avec des puzzles, c'est pas des mini-jeux, mais c'est des petites puzzles d'exploration qui sont pas passionnants. Et c'est vrai que, voilà, tu es à un moment où tu as envie de voir la fin et tu sens que ça tartine pour repousser le truc, pour ajouter des heures de jeu. Et c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, voilà, c'est le final est vraiment intéressant, le final est vraiment intriguant. Ça donne envie d'aller voir ce qui se passe après. Mais bon, il va falloir attendre quelques années pour avoir cette troisième partie de ce remake de Final Fantasy VII. On va être patient. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'ils vont réussir à améliorer un petit peu leurs chiffres de vente hein, avec Final Fantasy VII Rebirth. Je sais pas si on va peut-être avoir une version PC un petit peu plus tôt. Je pense que ça ferait du bien au jeu. Et quand j'ai une version PC, j'espère une version PC d'une meilleure qualité que Remake, parce que Remake, le portage, en tout cas à l'origine, à la sortie, c'était pas exceptionnel niveau technique. En plus, c'était uniquement sur l'Epic Game Store. C'était un petit peu bof. J'espère que ça se passera mieux pour Rebirth. On croise les doigts. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Mais on va voir. Voilà, en tout cas pour Rebirth, on est un petit peu entre deux trucs là avec Hazard, parce qu'avec Rebirth terminé, c'était un très gros morceau. On ne sait pas trop dans quoi on va se lancer maintenant. Voilà, les sorties dans les semaines à venir sont pas forcément. Il y a rien qu'on attend vraiment à fond. Donc on va essayer de piocher dans le très très gros catalogue des jeux qui sont sortis début d'année 24, fin d'année 23. Il y a beaucoup de choses qu'on a pas terminé, qu'on a laissé de côté. On a vraiment commencé cette année 2024 avec 3 RPG japonais gigantesques, hein. Que ça soit Persona 3 Reload, Like a Dragon, Infinite Wells et Final Fantasy VII Rebirth, hein. C'était 3 fois des 3 paquets de 90 heures. 80 seulement, alors c'est 80 pour Persona 3, ça a été 100 heures pour Yakuza pour nous, mais voilà, c'était des gros morceaux, on a peut-être envie de quelque chose d'un petit peu plus digeste, et on a encore des dossiers sur le feu, on va revenir un petit peu en arrière. Et du coup, on va s'occuper déjà avec des jeux plus digestes, plus petits, qui font un petit peu moins peur. Et c'est ce qu'on a fait aussi, on a testé Harold Halibut. Harold Halibut, c'est sorti cette semaine, je crois que c'est sorti un petit peu sur toutes les plateformes, mais en tout cas, nous, on l'a testé sur Xbox, puisque il est sur Game Pass, donc autant profiter du Game Pass. Game Pass qui sert de moins en moins, hein. On va pas se mentir, hein. les sorties récentes sur Game Pass... c'est pas forcément la fête. Le précédent jeu qui était intéressant sur le Game Pass, en tout cas à mon sens, ça avait été Persona 3, on en a parlé. Et là, Harold Halibut, c'est un jeu qui m'avait pas mal tapé dans l'œil à chaque fois que je l'ai vu en trailer, et là je suis content qu'il soit sorti. Résultat est très particulier. C'est un jeu étrange, Harold Halibut. C'est un jeu d'aventure narratif. Hein. C'est vraiment on suit l'histoire. Il y a très peu de gameplay à part faire des allers-retours sur cette station sous-marine. Alors c'est quoi l'histoire d'Harold Halibut? On fait partie d'un équipage de réfugiés en fait sur une station spatiale. En fait, c'est un vaisseau spatial, une arche pour sauver l'humanité qui avait quitté la Terre à l'époque de la guerre froide dans l'univers du jeu. Enquête, voilà, la guerre froide, la Terre était en train de péricliter avec les conflits. Donc cette expédition est partie en quête d'un nouveau système solaire, d'une nouvelle planète habitable. Ça s'est pas bien passé. La planète habitable à l'arrivée n'était pas si habitable que ça. Le vaisseau / station spatiale s'est écrasé sous l'eau, puisque c'est une planète où il n'y a pas de terre finalement, donc ils se sont un petit peu plantés là-dessus. Et donc ils vivent depuis plusieurs décennies sous l'eau. Il y a plusieurs générations qui se sont écoulées, hein, bien évidemment. Et donc on est dans cette station spatiale qui est vieille, qui est vieillissante, qui tombe en ruine. Qui est sous l'eau, dans un environnement très hostile. C'est pas vraiment la terre promise que l'humanité attendait, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont. Ils essayent de faire ce qu'il faut. Et tu joues donc Harold Halibut, qui est un agent d'entretien, finalement. C'est pas plus que ça. Hein. C'est quand il y a les filtres qui sont bouchés, c'est à toi d'aller le faire. ce genre de truc. Visuellement c'est sympa parce que c'est un petit peu dans un style stop motion avec des personnages, alors pas en pâte à modeler, hein, c'est pas non plus, voilà, c'est gros mythe, mais c'est... Il y a un petit peu de ça, c'est... L'ambiance est très particulière. C'est une ambiance assez lourde, mais assez rigolote en même temps, tu vois, c'est vraiment... Ils sont dans une situation vraiment, vraiment compliquée. Tu joues à Roald Halibut, qui est... Bon, c'est un agent d'entretien, c'est un petit peu un bon à rien. Il se fait mal parler par tout le monde. C'est déprimant, c'est dépressif, c'est... Mais il y a une touche de... Voilà, les situations sont marrantes, absurdes. C'est des gens qui sont dans un contexte où il n'y a rien qui va, mais ils ont des priorités qui sont un petit peu... qui partent dans tous les sens. Et donc toi, tu vas aller à gauche, à droite, dans cette station spatiale, avec rien qui marche, les systèmes de transport qui ne marchent pas. Et tu vas essayer de résoudre un petit peu ce qui se passe, et de découvrir peut-être un complot, peut-être une conspiration qui commence à apparaître dans cet univers-là. Donc il y a quand même un mystère qui est intéressant, l'histoire est intéressante. Maintenant, c'est un jeu qui est très lent, il y a très peu de gameplay. Le gameplay, ça va être quelqu'un qui te demande, pas poliment, d'aller apporter un truc à l'autre bout de la station. Donc tu y vas, c'est un petit peu labyrinthique, tu vas parler aux gens, les gens ils te racontent un petit peu leur vie, leur malheur, tu reviens, tu fais des allers-retours, tu marches beaucoup dans la station. De temps en temps, il y a un mini-jeu, mais c'est vraiment trivial et pas forcément passionnant. Donc niveau gameplay, il n'y a pas grand-chose. On va pas se mentir, c'est très léger. Par contre, niveau ambiance, c'est assez spécial, c'est assez particulier, c'est pas forcément mal écrit. Mais c'est étrange. Tu sens que c'est des gens qui avaient une idée d'histoire, une idée d'univers qu'ils ont voulu mettre en place, mais au-delà de ça, ils ont oublié de faire un jeu vidéo derrière, et c'est pas forcément, c'est à la limite de l'interactif. Donc voilà, attention dans quoi vous vous lancez, surtout si vous n'avez pas le Game Pass. Si vous voulez acheter le jeu, essayez de voir un petit peu quelques vidéos, quelques trucs de gameplay pour voir vraiment dans quoi vous vous lancez. C'est particulier, mais ça détend, ça plaît beaucoup à Asa. Je suis contrarié qu'elle soit pas là pour vous le dire, parce que elle aime beaucoup l'ambiance, elle aime beaucoup les dialogues, ça lui plaît beaucoup. Moi un petit peu moins, on va pas se mentir, mais c'est intéressant. Voilà, Harold Halibut, comme dit, c'est disponible sur tout. Cette semaine également dans les sorties, alors c'est pas une vraie sortie, hein, c'est de l'early access, mais on a pu mettre la main sur No Rest for the Wicked. Ça, c'est sur PC uniquement, sur Steam, c'est sorti en early access. C'est le nouveau jeu de Moon Studio. Moon Studio, c'est le développeur de Ori. Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps. No Rest for the Wicked, c'est leur troisième jeu. Mais attention, c'est très 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 différent de Ori. Ça n'a rien à voir. Hein. Comment dire, c'est un genre de... C'est difficile de le comparer avec des jeux existants, parce que j'ai envie de dire que ça ressemble à Diablo, parce que c'est ce point de vue vu de dessus, avec des très très sombres, très très pas apocalyptique, mais presque, hein, où tu vas jouer, c'est un jeu d'action où tu as des monstres qui vont te sauter dessus, des ennemis, des brigands, et ce genre de choses qui vont te sauter dessus, et toi tu vas te battre avec cette perspective vue d'au-dessus. Mais voilà, quand tu regardes le gameplay d'un petit peu plus près, c'est très différent de Diablo, puisque c'est un gameplay qui va se baser sur des timings, sur des contres, sur des parades, bien observer ton adversaire, savoir quand contrer, quand attaquer, comment envoyer une attaque normale, une attaque chargée, en faisant bien gaffe à ta jauge d'endurance, un petit peu comme dans un Dark Souls vu de dessus. T'as une jauge d'endurance qui va dicter si tu peux attaquer, si tu peux parer, mais elle est, en tout cas au début du jeu, elle est très faible, donc si, voilà, trois coups d'épée, t'es déjà épuisé, il va falloir... économiser, vraiment bien penser tes coups, sinon c'est rapidement compliqué. C'est un jeu qui est très dur. C'est souvent, parfois il y a des jeux qui sortent comme ça en early access et tu sens que c'est qu'il y a vraiment un très gros potentiel et tu dis bon bah voilà, je peux pas me fatiguer sur l'early access, je vais attendre que ça sorte pour voir le jeu complet. Tu vois, il y a eu des jeux comme Hades ou comme Dead Cells qui étaient comme ça. C'était vraiment un early access très prometteur, mais alors là. Là aussi, on va attendre la version finale, mais pour d'autres raisons. Techniquement, c'est pas au top. Hein. L'optimisation est pas terrible. Les performances sur PC sont pas terribles. Et il y a un rythme au jeu. Il y a pas mal de choses qui prennent pas pour moi. Le rythme, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Alors ça doit être une question d'habitude, hein, mais les combats, j'ai eu du mal à m'amuser dans les combats. J'ai eu du mal à vraiment rentrer dans ce jeu de contrer, parer, bloquer, esquiver pour donner des coups quand il faut. Alors, on s'en sort, hein, les combats sont pas non plus impossibles, mais voilà, j'ai pas de satisfaction à la fin du combat quand tu finis... Quand tu finis un adversaire, t'as l'impression d'y être allé en bourrin et pas avoir vraiment exploité les systèmes de jeu. Donc un petit peu frustrant. Visuellement aussi un petit peu frustrant. C'est pas très beau, c'est très très sombre, on voit pas trop ce qui se passe. Quand tu mets ça à côté de jeux magnifiques comme Ori, voilà, t'as une direction artistique qui est vraiment différente et qui est un petit peu décevante. Moi je suis vraiment un petit peu déçu par le résultat. Alors c'est personnel, hein, mais là voilà, je l'ai pas senti, j'ai pas eu un feeling. Il va falloir que je passe un petit peu plus de temps dessus, hein, j'ai pas passé des heures et des heures non plus, mais le développeur est d'accord, hein, ils ont déjà communiqué dessus. Il y a pas mal d'ajustements qu'il y a à faire, des ajustements techniques. Il y a des patchs, il y a déjà un patch qui est sorti. Il y en a d'autres qui sont prévus pour optimiser les performances, ce genre de choses. Après, l'équilibrage du jeu, le rendre plus intéressant, c'est à voir. À voir. En parallèle de ces combats, il y a aussi un petit peu de survie. Tu vas choper des outils comme une hache, une pioche pour récupérer des composants, du bois, de la pierre. Ce genre de choses, voilà, il faut voir un petit peu, comme dit, il faut que je passe un petit peu plus de temps dessus parce que pour l'instant ça m'a pas convaincu, mais il faut laisser la chance un petit peu à tous ces systèmes de se mettre en place pour vraiment dévoiler un petit peu ce que réserve le jeu. Mais voilà, c'est dur de rentrer dedans, c'est pas très beau. Les personnages, alors t'as une création de personnage au début qui est très bizarre parce que tu crées un personnage avec des proportions vraiment bizarres, une tête minuscule sur un corps immense avec des bras très très longs. Vraiment, c'est un personnage difforme. Et pourquoi il est difforme, c'est parce que vu de dessus et animé avec une allonge norme, ça prend. Le design prend un sens vu de dessus. Le personnage est beaucoup plus cohérent vu de dessus. Mais en création de personnages et dans certaines cinématiques, quand on est en face des personnages, ils sont bizarres, ils sont difformes, c'est un style visuel. J'ai du mal à accrocher. Alors, encore une fois, on est sur de l'early access, on a un développeur qui réclame du feedback sur son jeu. C'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir leur donner du feedback pour essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus... d'un petit peu plus solide, mais là actuellement c'est pas un jeu que j'ai vraiment envie de relancer. Ça donne pas envie comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la liste? Alors, on va tricher un petit peu, c'est pas un jeu vidéo, mais on va passer un petit peu de temps quand même à vous parler de la série télé Fallout. Voilà, on est quand même proche des jeux vidéo, hein, on reste dans cet univers-là. Il y a la série Fallout qui est sortie sur Amazon, si vous avez Amazon Prime. Alors déjà, premièrement, coup de gueule sur Amazon Prime, puisqu'ils ont activé leur... Ça fait un moment qu'ils en parlaient. Mais ils ont activé le truc comme quoi, même si tu as Amazon Prime, tu te chopes quand même des pubs sur leur série, donc ça fait chier. Ça, c'est nul, c'est mesquin et ça fait pas plaisir. Mais bon, c'est comme ça. La série, je crois que la série Fallout, il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui s'attendaient à un truc un petit peu raté. Et c'est pas raté. c'est pas raté. C'est même plutôt pas mal. c'est très fidèle à l'univers et c'est, ça part sur une formule que je trouve intéressante. Et on en avait parlé, ça c'est mon point de vue, donc que j'avais déjà donné à l'époque où la série The Last of Us faisait pas mal parler d'elle. J'aime bien le fait qu'ils reprennent l'univers du jeu vidéo, mais qu'ils racontent une histoire originale. La série Last of Us, bon, c'est une série, c'est très bien fait, hein, on est d'accord, mais j'ai pas besoin qu'on me re-raconte cette histoire. Voilà, j'ai l'impression de voir un film que j'ai déjà vu. C'est intéressant, mais c'est pas ce que je cherche. Là, par contre, on a vraiment une nouvelle histoire dans cet univers de Fallout, ce qui est pas mal parce que Fallout, c'est les jeux, que ce soit Fallout 1 et 2, les tactiques, c'est ensuite les nouveaux en 3D. Alors, on a Fallout 3, Fallout 4, on a New Vegas. Et même Fallout 76, voilà, on a fait le tour. C'est des jeux qui sont pas vraiment liés entre eux. L'un n'est pas la suite de l'autre. Il se passe souvent des décennies, voire des centaines d'années d'écart entre les jeux. Et y a, à part quelques clins d'œil, quelques références, il y a très peu de liens entre les différents jeux. Et là la série, c'est pareil. Voilà, la série, elle se place quelque part sur la timeline. Elle va raconter une histoire indépendante de toutes les autres histoires, même s'il y a des références et des clins d'œil et des trucs que le fan absolu va repérer. Pour les autres, c'est quelque chose où on peut rentrer dedans sans connaître la série, sans connaître le jeu vidéo. Et on peut découvrir vraiment l'univers comme ça. Donc ça, c'est cool. C'est une histoire qui est vraiment intéressante et une histoire qui est assez fidèle au thème de Fallout, hein, à cette société pourrie, à cette, les conséquences absurdes d'une guerre qui est absurde à la base. L'ambiance est assez bien capturée. On garde le ton de Fallout, même si c'est du post-apocalyptique, les bombes atomiques ont explosé, la planète est ravagée, mais on est quand même sur des situations souvent rigolotes. Bon, il y a beaucoup de violence, beaucoup d'humour noir, mais c'est marrant. Il y a un ton un petit peu léger, hein, un petit peu rigolo, qui est bien retranscrit, qui passe bien. Les acteurs sont super forts. Hein. Alors Walton Goggins, c'est un mec que je suis fan depuis longtemps. Hein. Y a rien à dire. Ella Purnell, qui fait le personnage principal, elle est cool aussi. C'est pas la première fois qu'elle est dans un projet de jeu vidéo, d'adaptation de jeu vidéo. Parce que c'est elle qui faisait, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, en VO, c'est elle qui fait la voix de Jinx dans Arcane, l'adaptation de League of Legends chez Netflix. Donc voilà, non, le casting est bon, les histoires sont bien, les références au jeu sont très 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 nombreuses, mais sont pas non plus indispensables. C'est-à-dire que le fan du jeu va vraiment repérer plein de détails tout le temps, mais c'est jamais des choses qui vont être importantes pour comprendre l'histoire, et celui qui est pas fan du jeu, par contre, va pas être perdu. C'est vraiment une réussite. Ça se mange facilement, hein. C'est 8 épisodes, c'est assez court. Mais en tout cas, c'est vraiment réussi. Et ça cartonne, hein, le résultat. Amazon a annoncé qu'il y aurait une seconde saison. Hein. Ça a été confirmé cette semaine. Ça surprend personne. Mais avec le carton instantané de la série, la seconde saison est validée. Et d'après les producteurs, ça va être une nouvelle saison qui va avoir un petit peu encore plus d'ambition que la première. Il y a pas mal de choses, pas mal de références assez importantes de la série Fallout qui n'étaient pas dans cette première saison, mais qui sont gardées de côté pour la saison 2 parce qu'ils voulaient se donner les moyens de le faire bien. Et vu le succès de la première saison, ils auront un petit peu plus de budget pour faire les choses de façon un petit peu plus grandiose dans la saison 2. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très très bien. C'est bien d'avoir des jeux vidéo derrière à vendre quand il y a une série qui cartonne comme ça. Ça, c'est la synergie, on en a déjà parlé. Ça fonctionne bien et ça fonctionne à 200% pour Fallout. Là, cette semaine, ce week-end, Fallout 4 est le jeu le plus vendu en Europe. Fallout 4 est numéro 1 des ventes. Si on regarde, c'est un boost. C'est un jeu qui a 10 ans quasiment, hein, mais c'est un jeu qui a eu un boost par rapport à la semaine précédente de 7500%. C'est beaucoup. énormément de ventes. Pas loin des trois quarts des ventes, c'est sur la version PC, mais il y a également des ventes sur PlayStation et Xbox. Beaucoup de gens qui achètent Fallout 4 pour découvrir les jeux vidéo. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient déjà. Hein. Le jeu est très très joué. Fallout 4 et les précédents, hein, New Vegas, Fallout 76 aussi, qui a un regain de popularité énorme. Qui mérite, hein, parce que ça aussi, Fallout 76, c'est un jeu qui est sorti dans un état assez catastrophique, mais qui a réussi à attirer un public, à attirer une communauté, des fans, à s'améliorer au fil des mois, des années. Et là, aujourd'hui, Fallout 76 est dans un état plutôt, plutôt bon, et ceux qui jouent sont assez contents du résultat. Donc, ça permet à pas mal de monde de découvrir ce Fallout. Dans le top 10 des ventes de jeux vidéo cette semaine, donc on a Fallout 4 au numéro 1, mais également dans le top 10, on a Fallout 3, Fallout New Vegas et Fallout 76. Hein. Les jeux sont... Alors, si vous êtes sur Steam aussi, il y a des grosses soldes. Hein, voilà, moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais pas New Vegas en version Steam, et comme j'avais envie de le retester et mettre un petit peu des mods, je me suis dit je vais l'acheter sur Steam. Ça m'a coûté 2,49 €. Je me suis pas ruiné là-dessus. Donc si vous manque quelques Fallout à votre collection, allez voir les soldes. Y a peut-être moyen de faire des bonnes affaires. Voilà pour Fallout. On va passer et voilà pour les jeux auxquels on a joué cette semaine. On va passer un petit peu à l'actualité, si vous voulez bien. Ça commence à se préciser, hein, pour la PlayStation 5 Pro. Je pense qu'on va pas y couper, hein, elle va arriver avant la fin de l'année. On en a déjà parlé dans ce podcast. Les fonctionnalités ont l'air intéressantes. Alors, c'est toujours la même question, est-ce qu'on a besoin d'une PlayStation 5 Pro à une époque où il y a pas mal de développeurs qui disent que les capacités de la PS5 normale sont même pas encore exploitées à 100%. Mais bon, ça va pas empêcher Sony de sortir une console un petit peu plus chère, ils vont pas se priver et les fans vont se jeter dessus. Pourquoi pas? Et ça, c'est pas vrai que ça va servir à rien. C'est une console qui va être plus puissante. Et là, on a cette semaine des détails sur ce que Sony exige de la part des développeurs, en tout cas leur demande de faire. C'est une console qui devrait avoir plus de facilité à faire tourner les jeux à 60 images par seconde avec du ray tracing, faire remonter les résolutions vers du 4K grâce à leur nouveau système, hein, le PSSR. PSSR, c'est quoi? C'est le PlayStation Spectral Super Résolution. Alors, c'est l'équivalent PlayStation du DLSS de NVIDIA, du FSR de AMD. C'est le principe de faire augmenter artificiellement la résolution de façon efficace. Et ça donne des résultats vraiment satisfaisants. Donc c'est bien que ça soit vraiment dans les nouvelles consoles. Donc, il va y avoir possibilité d'améliorer les performances des jeux, mais ça va impliquer que les développeurs retournent sur leurs jeux, retournent sur les jeux qui sont déjà sortis pour faire des patchs, pour faire des mises à jour, pour exploiter les possibilités de la PS5 Pro. On apprend, alors ça c'est des fuites qui viennent directement du portail développeur, c'est-à-dire quand tu développes pour PlayStation, tu as accès à un portail avec de la documentation pour pouvoir faire ton truc proprement. Ça c'est des choses qui ont fuité, donc c'est de la documentation qui est réelle, qui est assez complète et assez sûre. Donc on apprend que les développeurs vont pouvoir tirer parti de cette nouvelle puissance, ces nouvelles fonctionnalités. Et pour ceux qui ne font pas de patch, il y aura également quelque chose de passif, un mode boost, vraiment un boost mode qui va permettre d'envoyer plus de puissance de calcul dans le jeu de façon à pouvoir avoir des performances qui seront meilleures. Mais en tout cas, il y aura un label qui va exister, que PlayStation va mettre en place. Hein, ça va être vraiment un label amélioré pour PlayStation 5 Pro. Ça va être un petit autocollant officiel qu'ils vont te mettre sur la boîte et sur les pages des boutiques pour les jeux, pour vraiment mettre en avant les jeux qui sont optimisés pour PlayStation 5 Pro. Et optimiser, ça veut dire un nouveau mode un nouveau mode graphique spécial PlayStation 5 Pro dans les options du jeu qui permet d'avoir une meilleure résolution, un meilleur rafraîchissement, du ray tracing en plus. Mais il faut vraiment qu'il y ait un mode de jeu, un mode graphique dédié pour qu'il y ait ce label amélioré, optimisé pour PS5 Pro. Donc au moins ça sera clair, et on espère que, bah, du coup pour les acheteurs de PS5 Pro, on espère qu'il y a pas mal de développeurs qui vont revenir en arrière, qui vont prendre leurs jeux qui ont des performances un petit peu limites. Un très bon exemple, là je viens de passer 90 heures sur FF7 Rebirth. Voilà, FF7 Rebirth, c'est un jeu qui techniquement est un petit peu entre deux... entre deux, en fait, parce que voilà, on a un mode performance qui est à 60 images par seconde, mais avec une résolution dégueulasse, et un mode qualité qui est magnifique visuellement, mais qui rame, et aucune des deux solutions est bonne, quoi. Donc il faut... Je suis curieux de savoir ce que ça va donner sur une PlayStation 5 Pro. C'est une PS5 Pro qui va mettre un petit peu... qui va un petit peu diviser la génération de consoles, parce que du côté de Microsoft, qu'est-ce qui se passe ? Visiblement rien. Il n'y a pas de réaction de Microsoft. J'ai pas l'impression qu'une série X Pro ou un truc comme ça, un truc équivalent, soit en développement. Ils ont, en plus, on a eu pas mal de sources, hein, avec tous les documents qui ont fuité pendant les audiences de la FTC pour le rachat d'Activision Blizzard. On sait ce qu'ils prévoient. Ils prévoient pas de série X Pro. Par contre, ils prévoient de passer à la génération suivante le plus rapidement possible. Et on risque de se diriger vers un décalage de génération comme on a déjà eu, comme c'est déjà arrivé. Mais avoir une nouvelle génération de Xbox qui arrive bien avant une nouvelle génération de PlayStation. Voilà, ça va être un petit peu bizarre et ça va être un casse-tête pour les développeurs de jeux, donc on leur souhaite bon courage. On reste dans la rumeur, ça c'est une fuite tout à fait plausible. On se rapproche vers un reveal très proche de Far Cry 7 chez Ubisoft. Alors ça, c'est un leaker français qui a sorti ça. C'est quelqu'un qu'on connaît pour des fuites assez précises du côté Ubisoft. Récemment sur Assassin's Creed Mirage, il y avait pas mal de détails qui étaient tout à fait exacts. Là, il nous parle de Far Cry 7. Alors bon, c'est une fuite. Voilà, c'est la mode chez les leakers, on parle en énigme, il n'y a rien de vraiment sûr, mais il semblerait que donc le reveal de Far Cry 7 soit proche. Il semblerait que y aurait Cillian Murphy au casting de Far Cry 7. Ils aiment bien avoir une star dans Far Cry, ça marche bien. On avait Giancarlo Esposito sur Far Cry 6, ça avait fait pas mal de bruit. Là, ça va être Cillian Murphy, qui est grosse star en ce moment, hein. Il a le vent en poupe, ce monsieur, après Oppenheimer l'année dernière, il a eu un Oscar, donc ça se passe bien pour lui. Voilà. Et si on commence à voir des acteurs oscarisés dans Far Cry, ça prend une belle tranche de budget, hein, mais au moins ça va clairement faire parler du jeu. On sait pas mal de choses déjà sur Far Cry 7, hein. Il va y avoir un système de timer, de chrono. Grosso modo, le protagoniste de Far Cry 7, d'après ce qu'on sait, doit sauver sa famille, qui a été kidnappée ou je sais pas trop quoi. On verra bien, mais tu vas avoir 72 heures pour sauver ta famille. Et c'est un chrono qui va tourner 72 heures dans le jeu, hein, mais en temps réel, ça va faire pas loin de 24 heures apparemment. Et ça va être l'objectif, et visiblement voilà, il sera complètement possible de foirer le truc. Je suis curieux de voir comment ça va se goupiller, mais comme dit, voilà, on risque d'avoir des infos sur Far Cry 7 très bientôt. Moi, le planning que je vois bien dans ma tête, c'est un petit teaser très bientôt, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, de Far Cry 7 pour nous donner envie. Un vrai reveal au mois de juin à l'E3. Enfin, c'est pas l'E3, mais on se comprend. Et une sortie quelque part en 2025 pour ce Far Cry 7. Affaire à suivre. L'Early Access de Hades 2 se rapproche à grands pas. Il y a un test technique qui a été lancé cette semaine. Donc il y a quelques chanceux qui ont été sélectionnés pour une sorte de bêta technique. Et c'est une bêta qui doit durer, je cite, selon le studio Supergiant, plus d'une semaine, mais moins d'un mois. Voilà, ça laisse une fenêtre assez large. Et l'Early Access, la sortie du jeu en Early Access, devrait embrayer juste après. Donc on est très proche, on va être à moins d'un mois de Hades 2 en Early Access. Alors voilà, on parlait de No Rest for the Wicked tout à l'heure, Hades 2 aussi, Early Access. Je pense que ça va être intéressant de se plonger un petit peu dedans, un petit peu. Mais je suis curieux de voir aussi la version finale du jeu. Je vais essayer de ne pas trop passer des heures et des heures sur cet Early Access pour ne pas trop gâcher le plaisir de la découverte. Mais voilà, Hades 2, du coup, avec ce test technique, on commence à avoir pas mal d'images et pas mal d'infos sur le jeu. Hein. Le jeu a été streamé par son développeur, par Supergiant. Donc il y a des grosses vidéos de gameplay qui permettent de voir à quoi ressemble Hades 2. Alors, pas énormément de surprises. Hades 2, c'est Hades, mais plus de Hades, quoi. On a un autre protagoniste, hein. On joue le rôle de Mélinoé, voilà, qui est la princesse des enfers, un truc comme ça. Je sais pas exactement les liens avec Hades. Et à la recherche, elle est en train de traquer Chronos, le titan du temps. C'est une sorcière, donc elle va utiliser ses pouvoirs magiques. Ça, c'est la grosse nouveauté en combat par rapport au premier Hades. Hein. Donc, tu as une jauge de magie qui va te permettre d'envoyer des sorts, des attaques assez puissantes, des attaques magiques. Et d'un point de vue structure du jeu, on a une structure inversée par rapport à Hades. À Hades, on jouait... comment il s'appelait dans Hades Ça m'échappe, c'est pas grave. On jouait le fils d'Hadès qui essayait de s'échapper des enfers. Là, c'est l'inverse, tu essayes de forcer l'entrée. Il faut rentrer dans les enfers. Voilà. Après, voilà, la structure reste la même. Les combats, c'est un petit peu la même chose. Tu as tes attaques, tes compétences qui vont être améliorées à chaque run grâce aux faveurs des différents dieux que tu vas croiser. Tu as une base où tu retournes à chaque fois que tu meurs, où tu vas pouvoir améliorer tes compétences de la même façon que tu le faisais dans le premier Hades. Voilà, il y a beaucoup de similitudes, une structure globalement très très proche. Hein. Voilà, Hades 2, c'est simplement plus de Hades, mais pourquoi pas, on n'en demandait pas ni plus ni moins. Et on a hâte de se le mettre sous la dent. Square Enix... Square Enix confirme cette semaine que le Visions of Mana qui sort bientôt, ça sort cette année, il me semble bien, Visions of Mana. Donc le nouveau Mana n'aura pas de mode multijoueur, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre vu l'historique de la série. Voilà, c'est une série qui a toujours très très bien marché en multijoueur coopératif à 2 ou à 3. Là c'est pas le cas, c'est un jeu complètement solo. Voilà, la justification c'est que le multijoueur aurait de l'impact sur le design et sur le rythme du jeu, ce qui est pas faux, mais ne vous attendez pas à faire ce jeu en coop avec des copains, ça sera un jeu 100% solo. Voilà, c'est la news, c'est assez court, mais je peux comprendre, hein, c'est... Avec le temps, c'est des jeux qui ont quand même beaucoup, beaucoup évolué. On est très loin de l'époque de Secret of Mana sur Super Nintendo, qui était une expérience à 3. Hein. C'était quelque chose d'assez dingue. C'était un super jeu multijoueur. Mais la série a changé. C'est plus vraiment ça, quoi. L'Ariane Studio continue à confirmer qu'il travaille sur des nouveaux projets très loin de l'univers de Donjons et Dragons. L'Ariane Studio confirme qu'ils ont actuellement deux projets en développement. Ils ont donc deux équipes qui travaillent en parallèle. Les deux projets sont sur des licences qui appartiennent à l'Ariane Studio. Donc voilà, est-ce qu'ils vont reprendre des choses qu'ils ont déjà faites ou est-ce que ça va partir sur quelque chose de complètement nouveau ? Bah, peut-être les deux, du coup. Hein, ça peut être l'un et l'autre. La licence qu'ils avaient avant, c'était Divinity Original Sin. Ils en avaient fait deux. C'était des jeux qui étaient très proches de Baldur. Hein. C'est d'ailleurs, ça a été leur carton d'entrée pour Wizards of the Coast et Donjons & Dragons. Ils ont vraiment montré ce qu'ils ont pu faire avec Divinity. Ils ont dit, voilà, on sait faire ça. Confiez-nous Baldur's Gate 3. Ils ont fait Baldur's Gate 3. Ils se sont bien débrouillés. Ça a été un succès assez dingue. Et maintenant, voilà, chacun repart de son côté. Larian fait ses propres jeux, deux jeux en développement. Et Wizards of the Coast, Donjons & Dragons, ils sont en train de chercher un nouveau partenaire pour Baldur's Gate 4. Donc ça a été annoncé du côté de Wizards of the Coast. Il y aura bien Baldur's Gate 4. Ça ne sera pas Larian, ça sera quelqu'un d'autre. Et actuellement, ils cherchent ce quelqu'un d'autre. Bonne chance à eux. J'avoue que j'ai pas d'idée. Il y a très peu de studios qui peuvent faire quelque chose d'aussi dingue que ce que Larian a fait. Maintenant, voilà, avant la sortie de Baldur's Gate 3, il y a très peu de gens qui auraient parié sur Larian. C'est vraiment une prouesse ce qu'ils ont fait. J'espère qu'ils vont réussir à continuer sur leur lancée. En tout cas, c'est un studio qui est maintenant vraiment sur le devant de la scène. Les gens vont vouloir savoir ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont continuer à faire. Ils existent depuis longtemps, hein. C'est un studio indépendant qui existe depuis 1996, Larian. Voilà. Maintenant, ils ont pris une taille sans aucune mesure à ce qu'ils étaient avant la sortie de Baldur's Gate 3, et tout le monde va les surveiller. Ils sont très confiants sur leur prochain projet, au pluriel, et le patron de Larian dit, voilà, c'est leur projet, les plus ambitieux. Il dit bien, je ne sais pas si on va réussir à le faire. En tout cas, sur le papier, si on regarde la narration, le visuel et les projets de gameplay, je pense que ça sera notre meilleur travail jusqu'ici. Voilà. Donc ils sont très confiants, tant mieux pour eux. Et j'espère qu'ils vont réussir. En tout cas, ils sont surveillés de près. On a quelques nouveaux jeux qui ont été annoncés cette semaine. Kingdom Come Deliverance 2 pour les amateurs de... Alors là, on est très différent de Donjons et Dragons, hein, puisqu'il y a pas... on est sur du RPG, mais pas du tout fantastique. Hein. Il n'y a pas de donjon, il n'y a pas de dragon. On est dans la retranscription historique de la bohème du 15e siècle. C'est la suite de Kingdom Come Deliverance. Et c'est... Voilà. C'est un studio qui cherche à faire quelque chose de très réaliste, de très proche de cet univers Moyen-Âge qu'ils essayent de retranscrire. Donc vous attendez pas à vous battre contre des monstres ou des trucs comme ça. Ça va être vraiment quelque chose d'historique. Voilà. On va pas se mentir, hein, Asa est pas là, elle pourrait vous le dire, mais si vous allez fouiller dans les vieux épisodes de l'époque, on n'avait pas aimé le premier Kingdom Come Deliverance. C'était pas super passionnant. Techniquement, c'était pas non plus hyper bien réussi. On va voir ce que va donner ce Deliverance 2. Ça sort cette année, hein, ça arrive en 2024 sur PS5, Xbox et PC. On va surveiller ça. Voilà. On est sceptique parce que, voilà, comme dit, pas convaincu par le premier Kingdom Come Deliverance, pas convaincu non plus par le studio et les gens à la tête de ce studio. Hein, beaucoup de remous autour de Daniel Vavra, qui est le directeur créatif du studio, qui a eu des comportements sur les réseaux sociaux et en public un petit peu... Voilà, c'est quelqu'un de problématique, comme on dit poliment en ce moment. À prendre avec des pincettes. C'est tout ce qu'on dira. Annoncé également... En fait, il y a eu un stream de chez Nintendo, un Nintendo Indie World, ça s'appelle. Ouais. Petit stream de 20 minutes où ils ont annoncé quelques jeux indépendants. Voilà, ça a été pendant 20 minutes, ça a mitraillé des trailers de nouveaux jeux. Pas énormément de trucs qui ont marqué un petit peu notre intérêt, mais quand même, CatQuest 3 a été annoncé. Voilà, CatQuest, le premier et le deuxième, c'est des jeux qui étaient très mignons. Le premier, CatQuest, c'était plutôt un jeu mobile, mais c'est une série qui a pris de l'ampleur et de l'ambition. CatQuest 3, c'est un jeu qui va sortir sur PlayStation, Xbox et Switch, également sur Steam. Une date de sortie, c'est le 8 août. Mais voilà, c'est un RPG très mignon où tu joues un chat. Ce troisième, on a un thème très Pirates des Caraïbes. Voilà, si vous voulez jouer un chat pirate dans un petit RPG trop mignon, c'est à surveiller. Il y a même une démo qui est disponible sur Switch, n'hésitez pas à aller tester la démo. Le jeu, quant à lui, il va sortir, comme dit, le 8 août, et c'est un jeu qui sort à 20€. Donc hein, c'est vraiment un petit jeu, c'est très mignon, et ça vaut le coup d'œil, surtout pour son prix. Un plus gros nom, un petit peu, dans ce Nintendo Indie World, on a eu l'annonce de SteamWorld Heist 2. Donc ça, c'est la suite de SteamWorld Heist, hein, c'est un des premiers, peut-être le premier, non, c'est pas le premier, le premier c'était SteamWorld Dig, non, je sais plus qui était en premier, non, Heist c'était le premier, bref. C'est un des tout premiers jeux de l'univers SteamWorld. Hein. Il y a eu plein de jeux. Il y a eu Heist, il y a eu Dig, il y a eu SteamWorld Build récemment qu'on avait fait. Il y avait, je ne sais plus comment s'appelait celui avec les cartes. Bref, ils ont plein de jeux différents dans cet univers, mais cette fois-ci, c'est une suite. C'est un gameplay très différent puisque c'est du... c'est en tour par tour. C'est compliqué à expliquer parce qu'il faut, viser, il y a une histoire de ricochet à gérer en tour par tour. En tout cas, c'est stratégique, c'est intéressant. Le premier était top, le deuxième va encore plus loin hein, puisqu'il y a un nouveau système de job qui va permettre d'augmenter les possibilités stratégiques. Alors c'est marrant parce qu'il sort également le 8 août, le même jour que CatQuest. Je ne sais pas ce qui se passe ce jour-là, mais tout le monde est chaud. Et ça sort comme dit sur Switch, mais également sur PC, PlayStation et Xbox. C'est très sympa. Les jeux SteamWorld, c'est toujours des jeux qui sont vraiment, vraiment très sympas. L'univers est vraiment réussi. Et le premier SteamWorld Heist avait fait pas mal de bruit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a parlé il y a quelques semaines, on savait que Ghost of Tsushima arrivait sur PC. Plus la sortie se rapproche, plus on a d'informations et de détails sur le côté technique de cette version PC. Et ce qui va être intéressant, c'est que pour la première fois, on a un jeu PlayStation qui sort sur PC avec l'utilisation du système de trophées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une interface PlayStation qui va être accessible sur PC, sur Ghost of Tsushima version PC, qui va te permettre de te connecter à ton compte PlayStation et de récupérer toutes les données de alors les listes d'amis, les trucs comme ça évidemment, mais les données de trophées. Du coup, c'est vraiment la même version que la version console. Si les trophées seront synchronisés entre la version console et la version PC, et il y aura donc possibilité de gagner des trophées PlayStation sur la version PC, ce qui n'était pas le cas sur tous les jeux, sur toutes les adaptations de jeux PlayStation qui sont sortis sur PC jusqu'à maintenant. Là, c'est vraiment une interface en plus qui permet de faire ça, et du coup qui permet de faire plein de choses marrantes comme un crossplay pour le mode multijoueur avec des joueurs PlayStation, les joueurs PS5 et PC pourront jouer ensemble. Et voilà. Alors en plus des trophées, il y aura des trophées PlayStation, il y aura aussi des achievements Steam, évidemment. Donc c'est vraiment double couche, mais c'est plutôt cool. Et on sent que PlayStation fait vraiment un effort pour unifier un petit peu les sorties PC et PlayStation. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'année. Hein. PlayStation va également faire des efforts pour sortir plus vite et mieux son catalogue PlayStation sur PC. Ça, c'est quelque chose... qu'on va voir, parce que c'est de même que pour Microsoft, hein, c'est des constructeurs de consoles qui commencent à se rendre compte qu'avec le coût de développement de jeux qui explose, en fait le coût de développement augmente plus vite que le public. On a des jeux sur cette génération qui coûtent beaucoup 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 plus cher qu'à la génération précédente. Mais on n'a pas beaucoup, beaucoup plus de joueurs. Au contraire, c'est plutôt linéaire. On a des nouvelles générations de joueurs qui ne s'intéressent pas forcément autant aux consoles qu'à une époque. La PlayStation 5 ne se vend pas beaucoup plus que la PlayStation 4, qui s'était vendue plus que la PS3. Mais bon, la PS3, c'était vraiment une anomalie qui n'avait pas forcément bien marché. Mais les consoles les plus vendues au monde, ça reste des trucs anciens, ça reste la PS2, ça reste ce genre de machine. Donc c'est... La Switch est une anomalie, évidemment. Mais voilà, si on n'arrive pas à augmenter le nombre de gens qui vont acheter les jeux et qu'on a un coût des jeux qui augmente, il faut trouver une solution de secours, et cette solution de secours, ça va être des versions PC des jeux. Et il le disait déjà en début d'année chez PlayStation, et entre-temps, ils ont sorti Helldivers 2 sur PC, ils ont vu le carton que ça fait sur PC, donc à mon avis, ça a un petit peu remué les choses du côté de chez PlayStation. Voilà, on va voir si cette version de Ghost of Tsushima a fait un carton sur PC. Le jeu est sorti il y a un petit moment sur Play, et la version PC est quand même très très attendu. On va tester ça, la version PC, si la technique suit, ça serait cool. Qu'est-ce qu'on a? City Skylines 2 pour les amateurs de City Builder. Méfiance sur City Skylines 2. La sortie du jeu il y a quelques mois maintenant, c'était pas très bien passé. L'état technique du jeu était mauvais, était même catastrophique. Et le développeur et l'éditeur s'étaient excusés. Ils avaient promis de corriger tous les problèmes techniques et de se concentrer là-dessus avant même de travailler sur les DLC. Les problèmes techniques sont pas forcément résolus, mais ils ont quand même sorti leur premier DLC payant. Et ça s'est pas bien passé non plus, hein. C'est vraiment une catastrophe tout ce qui se passe autour de City Skylines 2. Donc ce nouveau DLC payant, Beach Properties, hein, qui s'appelait, alors le problème c'est qu'il y avait rien dedans, quoi. C'était un tout petit DLC, c'est sorti trop rapidement, il n'y a pas de contenu, et pour un DLC payant ça fait un petit peu désordre. Donc ils ont remboursé tout le monde, ils se sont excusés, ils ont remboursé tout le monde, et le DLC devient maintenant un DLC gratuit. Il n'est pas payant. Donc, alors c'est une solution à moitié, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont acheté une édition premium Ultimate Edition de Cities Skylines 2 quand il est sorti. Et c'est une Ultimate Edition qui promettait d'inclure tout un tas de DLC payants. Donc ça devait être le premier DLC payant offert avec cette édition. Donc bah, ça marche plus puisqu'il n'est pas payant. Donc il va falloir offrir autre chose à ces gens qui ont payé, je crois, 30 balles de plus pour leur édition. Il va falloir compenser, parce que eux, par contre, ils ne sont pas remboursés. Hein. Ils ont expliqué, c'est trop compliqué de vous rembourser à cause des éditions physiques, ce genre de choses. Ce que je peux comprendre, mais maintenant il va falloir quand même leur donner des choses à ces gens qui ont... Ah non, ils ont... Alors, ouais, 30 euros de plus elle coûtait cette version, donc c'est pas rien. Et si les DLC qui sortent sont gratuits, ben qu'est-ce que ces gens auront en plus? On sait pas trop... Donc méfiance sur Cities Skylines 2, attention à ce que vous payez... Il était sorti au mois d'octobre, là on est au mois d'avril, c'est toujours pas résolu. On va se diriger du côté de chez Blizzard. On va parler de World of Warcraft un petit peu, ça fait longtemps. C'est dommage que Asa soit pas là pour parler de World of Warcraft. World of Warcraft se porte bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la possibilité de dire ça, et ça fait plaisir de pouvoir leur dire. Alors c'est vrai qu'on joue plus trop, Asa joue un petit peu à World of Warcraft, mais très peu. Moi ça va faire maintenant quelques années que j'y ai pas touché, hein, on va pas se mentir. Voilà, ça se passe mieux. La dernière extension a pas mal redressé la barre. Il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui sont plutôt satisfaits. Alors, il y a toujours des râleurs, hein, y a toujours des gens qui ne sont pas contents, mais la communauté, de manière générale, est plutôt satisfaite de ce qui se passe sur la dernière extension et sur tous les trucs annexes que Blizzard fait. Ils se permettent un petit peu des petites folies à gauche, à droite, des trucs originaux qui marchent bien. Alors, World of Warcraft classique, ça fonctionne bien. Ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont contents, même si on se dirige vers Cataclysme, qui est une extension mal aimée. On va voir ce que ça va faire pour l'impact que ça va avoir sur Classic. Mais voilà, ils font plein de trucs à côté. Là, il y a Mist of Pandaria Remix qui est sorti. Alors ça, c'est encore un mode de jeu limité, mais ça permet de refaire la campagne, de créer un personnage pour refaire la campagne de Mist of Pandaria comme à l'époque, mais avec pas mal de modifications, des équipements, un équipement inédit, des transmos inédites, des apparences, des montures, des familiers, ce genre de choses. Donc vraiment, revivre un petit peu ça avec des modifications, ça, et une fois que tu as fini cette campagne, tu vas pouvoir prendre ce personnage et le transférer sur le jeu normal. Donc c'est plutôt intéressant, les fans sont plutôt contents. On commence à reparler d'une version console de World of Warcraft. Alors ça, évidemment, maintenant que Blizzard est sous Microsoft, c'est forcément un sujet qui revient sur la table. C'est des rumeurs qui durent depuis longtemps, hein, mais récemment, autour d'interviews sur la prochaine extension, sur The War Within, il a été demandé à Holly Longdale, qui est productrice exécutive sur World of Warcraft, « Ouais, alors cette version console, ça en est où ?» Voilà. Et clairement, la réponse, c'est on va dire que rien n'est impossible, je peux pas en parler, voilà, c'est vraiment secret. Donc c'est clairement pas un non, mais qu'est-ce que ça va donner, c'est à suivre, hein. Quand on voit le carton que fait Final Fantasy XIV sur sa version console, c'est sûr que c'est pas facile à adapter un MMO en version console, mais si jamais ça fonctionne, si jamais c'est bien fait, ça peut donner un nouveau souffle de vie au jeu qui est sur une trajectoire plutôt ascendante, et c'est encourageant. C'est encourageant. Les premiers échos qu'on a du changement de direction chez Blizzard, de l'arrivée de Microsoft, sont plutôt positifs, hein, puisque Microsoft, on le sait, pour le meilleur ou pour le pire, laisse beaucoup de liberté à ses studios. Donc pour Blizzard, il les laisse faire un petit peu ce qu'ils veulent. Ce qui est très différent de la période où ils étaient sous Activision Blizzard, où ils étaient vraiment surveillés de près, et ça fonctionnait pas forcément, hein. On a vu ces dernières années à Blizzard, c'était compliqué. Là, s'ils ont un petit peu plus de liberté, c'est pas plus mal. Faut faire gaffe à laisser trop de liberté au studio. Parfois ça marche, parfois ça leur permet de faire des trucs assez fous qui fonctionnent, et parfois ça donne du Redfall, et voilà, pas besoin d'épiloguer là-dessus, on sait ce que ça veut dire. Mais voilà, si Blizzard peut retrouver un petit peu son indépendance, sa liberté qu'ils ont eue pendant très longtemps et qui a été la meilleure époque pour eux, c'est tout ce qu'on souhaite. Hein. C'est tout ce qu'on souhaite, clairement. Allez, on va conclure avec un petit peu de Ubisoft. On avait râlé la semaine dernière sur l'annonce de la date de sortie et surtout des éditions de Star Wars Outlaws. On avait un petit peu mal parlé d'une édition très 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 coûteuse à 130€ avec une mission exclusive à cette édition. Alors c'est vrai que c'était présenté comme une mission avec Jabba the Hutt qui était exclusive à cette édition très très chère. Et il y a pas mal de fans avaient râlé, ils voulaient pas qu'il y ait du contenu exclusif qui soit bloqué derrière une édition tout aussi chère que ça. Surtout que Jabba, bon, bah, c'est pour les fans, c'est quand même un personnage qui est assez important. Ubisoft a un petit peu clarifié la situation sur cette mission. Ils indiquent bien que c'est une mission complètement optionnelle, qui n'a pas d'impact sur le scénario global du jeu. Et surtout, c'est une mission avec Jabba, c'est pas la mission avec Jabba. Le cartel de Jabba the Hutt, c'est un cartel majeur de l'histoire de Star Wars. Et surtout quand on parle de Star Wars Outlaws, qui est une histoire de... une histoire de crime dans l'univers de Star Wars, les Hutts sont vraiment au centre du truc, et Jabba the Hutt a une place énorme dans l'histoire, même si tu n'as pas cette petite mission à part. Donc voilà, les fans peuvent se rassurer, ils auront bien tout ce qu'il y a autour de Jabba et son cartel. Mais par contre, voilà, c'est une petite mission optionnelle en plus qui sera pas accessible pour ceux qui n'ont pas la grosse édition. Voilà. Bon, rendez-vous le 30 août en tout cas pour Star Wars Outlaws pour en savoir plus. Voilà pour l'actu, hein, on va terminer avec une petite news Netflix. L'adaptation de The Witcher continue sa production et se termine. Ils ont indiqué qu'il y aurait une cinquième saison de The Witcher, mais également que cette cinquième saison sera la dernière. Voilà, saison 4 et 5 donc arrive. On rappelle qu'il y a un petit changement d'acteur quand même. Hein. Le rôle de Geralt de Rivia sera repris par Liam Hemsworth, le frère de Thor. Hein. Et Henry Cavill a complètement quitté la série à la fin de la saison 3. Voilà, bon, Witcher, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même assez inégal comme en qualité. Mais à voir hein, s'ils arrivent à terminer l'adaptation. Saison 4 et saison 5, ça sera l'adaptation des trois derniers bouquins. Donc c'est vraiment, on arrive au bout du truc. Il y a Laurence Fishburne aussi qui rejoint le casting à partir de la saison 4. Voilà. À voir pour les amateurs de The Witcher. Nous, tout ce qu'on aimerait, c'est quand même des nouvelles d'un nouveau jeu The Witcher. On sait que CD Projekt est à 100% dessus maintenant après la fin du développement de Cyberpunk. Donc à suivre. Voilà un petit agenda des sorties pour terminer cet épisode, si vous voulez bien. On a une semaine plutôt chargée quand même. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On a ça y est, enfin la sortie de Eiyuden Chronicles 100 Heroes sur PC, PS5, Xbox et Switch. Ça sort mardi 23 avril. Ça va être un successeur de Suikoden. Hein. Il y a beaucoup de gens de l'équipe d'Original de Suikoden qui sont dessus. C'est vraiment un jeu qui se veut dans l'esprit de Suikoden pour les amateurs de JRPG classique à l'ancienne de l'ère PlayStation. Malheureusement, le créateur nous a quitté il y a quelques semaines. On en avait parlé, donc il est malheureusement plus parmi nous pour la sortie du jeu. Mais c'est un jeu que les fans attendent depuis très longtemps, hein. C'est un projet qui a commencé sous Kickstarter et qui a l'air plutôt intéressant à l'arrivée. Tales of Kenzera Zou sort également, ça aussi c'est demain mardi sur PC, Switch, PlayStation 5 et Series X. Ça c'est donc un Metroidvania qui visuellement rappelle un petit peu Prince of Persia The Lost Crown, mais ça va être sur... ça va être dans un univers des aspirations de mythologie africaine et c'est le premier jeu développé par le gars qui faisait la voix de alors Assassin's Creed Origins, comment s'appelait le personnage Bayek, le personnage principal, donc qui passe au développement, qui passe à la création du jeu, et Tales of Kenzera Zou. Il y a beaucoup de très bons échos de gens qui ont pu mettre la main dessus, que ce soit la démo qui a eu disponible sur Steam il y a un petit moment, ou les premières previews, ça a l'air plutôt excellent, donc à suivre. Encore un jeu pour lequel on regrette le départ du créateur. Sandland, l'adaptation du manga d'Akira Toriyama, arrive le 25. 25, c'est jeudi. Sandland sort sur Xbox, PlayStation et PC. C'est donc l'adaptation du manga d'Akira Toriyama du même nom. C'est chez Bandai Namco que ça se fait. Et là aussi, il y a des démos qui sont sorties visuellement. C'est très très proche du manga, donc ça a l'air très très cool. Les amateurs de City Builder médiéval, il y a Manor Lords qui arrive sur PC vendredi 26. Manor Lords, donc c'est du City Builder et de la stratégie tactique, stratégie temps réel même, pardon. Dans un univers médiéval, c'est vraiment de monter, de développer sa ville, son village médiéval, avec les commerces, avec les productions, avec l'élevage, avec l'agriculture, avec tout ce qui va avec, mais aussi les forces militaires, parce qu'il peut y avoir des attaques. Donc ça a l'air joli, ça a l'air bien fait, c'est intriguant. Ça sort uniquement sur PC, mais c'est également sur le Game Pass PC à partir de vendredi. Donc n'hésitez pas à tester si vous avez le Game Pass. Je reviens un petit peu en arrière, Game Pass pour Manor Lords, mais également PlayStation Plus pour Tales of Kenzerazao. Si vous avez le palier 2 ou 3, je ne sais plus comment il s'appelle, Tales of Kenzera sera disponible sur le PlayStation Plus. Voilà, dernière sortie, vendredi 26. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu de tennis qui a l'air de tenir la route. Top Spin 2025 arrive sur Xbox, PlayStation 5 et PC vendredi 26. Donc à suivre. Hein. J'ai aucune idée de la qualité de ce jeu. Donc on va attendre d'avoir des tests. D'après les échos que j'ai eus à gauche et à droite, on aurait un jeu qui est plutôt d'excellente qualité, mais peut-être un contenu un petit peu léger. Ça c'est la crainte par rapport aux joueurs disponibles, ce genre de choses. On est peut-être un petit peu light. Donc à surveiller, mais pour les amateurs de tennis, voilà, Top Spin 2025, les jeux de tennis sont suffisamment rares pour qu'on le note. Voilà, c'est tout pour cet épisode, c'est tout pour moi. J'espère que c'était cool quand même. Asa nous manque, mais on fait quand même l'épisode sans elle. Et je vous remercie de m'avoir écouté raconter mes conneries pendant un petit peu plus d'une heure. Merci à tous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour davantage d'aventures tous ensemble. À plus, bisous.